espérance et sa propre fin. Autre conséquence qu'on ose à peine dire, mais qui est bien biblique, c'est que par ce refus, l'homme se rend esclave de l'ennemi de la nature humaine. Et donc, il gît au pouvoir du diable. Il est pris dans ses liens et il ne peut se libérer lui-même. Donc, une triple impossibilité. Triple distance entre Dieu et l'homme, triple impossibilité. De par la différence de nature entre Dieu et l'homme, de par l'impossibilité de parvenir strictement de l'homme de parvenir strictement à Dieu par lui-même, et de par le péché qui a encore dégradé l'homme en ses capacités naturelles. Donc l'homme est radicalement incapable d'égaler Dieu, de se sauver par lui-même, de se hisser à la hauteur de Dieu. Dieu seul peut sauver et élever l'homme, et donc il fait participer à sa vie divine et trinitaire. Et comme le dit Irénée, il fait tout par ses deux mains. La manière dont la Trinité agit dans l'histoire dérive de ce qu'elle est en elle-même. Et donc ce qu'il est beau de voir, c'est le développement historique de toute la geste de Dieu dans l'histoire. Il faut bien voir que le second fondement majeur est articulé au premier et qu'il est vraiment second. Alors le Fils est envoyé par le Père. Fondamental que ce soit le Fils qui le fasse, parce que lui seul est Dieu et homme, comme la lettre aux Hébreux permet de le comprendre. En Jésus, on voit la synergie de l'action de Dieu et celle de la liberté humaine dans l'histoire. Et cela s'accomplit de manière particulière dans l'acte du Christ, c'est-à-dire par sa mort et sa résurrection qui, comme l'a dit récemment le pape François, est le centre de l'histoire. Et cet acte est accomplissement en la personne de Jésus des promesses de l'Ancienne Alliance. Et au cœur de cet acte brille la lumière du cœur de Jésus, qui, sous les couleurs de l'amour miséricordieux, résume et symbolise à lui seul tout le mystère de la rédemption, comme le dit Pie XII dans Orietis Aquas in Gaudium. Et donc nous avons là, résumé dans le cœur de Jésus, tous les fondements dogmatiques de la mission. Alors cela se fait, cette communication se fait malgré le péché, et se fait par l'amour humain et sensible du Christ, dont le cœur est le symbole. Excusez-moi. Et donc, dans le cœur, on voit que le fondement est vraiment amour et miséricorde. Là, dans le cœur de Jésus, on voit un homme restauré, élevé, divinisé. Enfin, Jésus n'a pas péché, mais vous voyez ce que je veux dire. Le cœur de Jésus, c'est vraiment la synthèse. Et c'est le Pie XII qui le dit. Ça marque aussi que la mission est déterminée par l'amour, qu'elle est marquée par l'épreuve du refus de l'amour. Ça veut dire aussi que la mission est de l'ordre du combat spirituel. À l'ascension, eh bien, Jésus agit par l'Église en lui donnant son esprit, qui devient son corps, sacrement du salut. Et donc, elle est envoyée à l'Église par le Fils, comme le Fils, et envoyée par le Père. Donc elle participe à la mission du Fils, et elle y est intégrée. Et donc la liberté en acte du Christ poursuit son œuvre à l'intérieur des actes de liberté de ses disciples. Par eux, c'est lui qui agit, et donc il le fait de manière particulière dans les sacrements, le baptême, bien sûr, l'Eucharistie. L'Eucharistie a ceci qui est le propre, c'est qu'elle rend présent le mystère pascal, qui est cet accomplissement de la promesse. Et donc toute la mission est en dépendance, et toute l'histoire du salut est en dépendance intrinsèque de ce moment-là, de ce mystère pascal. Il faut tenir compte de l'action du Fils, de celle de l'Esprit aussi. Alors j'oublie de vous donner les différents slides. Celui-ci est envoyé par le Père et le Fils à la mort du Christ, à sa résurrection à la Pentecôte. Et donc, d'une manière spécifique, dans le mystère pascal, qui est le centre de l'histoire. Là se trouve l'accomplissement des promesses d'Ézéchiel et de Joël. En même temps, l'action de l'Esprit surplombe l'histoire, tout en suivant et en se donnant selon le rythme de l'histoire, dont le mystère pascal est le cœur, justement. Et donc, il parle et rejoint chaque être humain. Il explique ce qui vient du Christ, la vérité, ce qui est de lui. Et il offre à tous d'être associés à cela, à ce mystère pascal. Donc l'action de l'Esprit ne se limite pas à l'Église visible. Elle précède, elle est présente, elle suit et elle déborde son action, comme l'Écriture le montre. Ça veut dire qu'il s'agit aussi de recevoir ce que l'Esprit fait chez les autres, à l'intérieur de l'Église, mais même en dehors, comme l'épisode de Pierre et Corneille dans les Actes le montre. Il faut tenir, à mon sens, une articulation organique des divers fondements, et à partir de la Trinité, malgré le péché, il faut décliner cela dans l'histoire. Donc, la mission des chrétiens, elle est participation à l'agir ecclésial du Christ dans l'Esprit, qui se manifeste de différentes manières dans l'Église, la liturgie, la parole de Dieu, les sacrements, la communauté, etc. En fait, c'est tout ce qui compose l'Église. Et donc, la mission est fondée sur l'action multiforme du Christ dans l'histoire, en même temps qu'elle est cette action. Et elle sera toujours fonction du mystère pascal, qui est cet axe de l'histoire, accomplissement déterminant les promesses de l'Ancienne Alliance et de l'histoire. En même temps, sa vérité et sa bonté. C'est une intégration à ce mystère pascal. Et c'est une plongée, de ce fait, à l'intérieur du combat spirituel. Il n'est pas toujours évident de sortir dans la rue pour aller annoncer le Seigneur. Il n'est pas toujours évident qu'on aura un bon accueil. Le champ de ce combat, c'est le cœur de chaque disciple, celui de chaque homme de l'histoire de l'Église. Et donc la mission, elle est marquée par cette dynamique de don et d'accueil. D'accueil et de don, puisqu'on est plutôt situé comme le Fils. Et c'est aussi partage de ce qui est reçu et don de cela. Donc, il s'agit de recevoir du Père ce que le Christ et l'Esprit opèrent par les autres membres de l'Église, et même ce qu'il opère en dehors des limites visibles de l'Église. Ça veut dire que le missionnaire n'a pas sa propre mesure. En fait, le missionnaire joue la partition qui lui est donnée dans la symphonie du salut que le Christ conduit par les pasteurs de l'Église. Donc, une écoute de chacun. J'en viens maintenant à la mise en question. Je pense qu'il y a un enjeu déterminant et puis une mise en difficulté, mise en question profonde à cause du tournant anthropocentrique. Ah, d'accord, 5 minutes. Alors, je vais aller... voilà. L'enjeu déterminant, mais c'est la question de l'articulation du singulier et l'universel. Puisque l'Écriture affirme très clairement que Jésus est l'unique sauveur et que le salut est pour tous, comment est-ce qu'on articule cela? Et le danger, c'est de nier l'un ou l'autre. Et c'est toute la tension, en fait. Or, ce qu'on voit dans la dynamique de l'histoire du salut, c'est que Jésus choisit de passer par le plus singulier, le plus concret, pour donner le salut. S'il ne fallait pas passer par singulier, pourquoi est-ce que Jésus se serait le Fils se serait incarné en Jésus? Ce serait pas nécessaire. Eh bien, on peut reproduire la même chose avec l'Église et les membres de l'Église. Quand un chrétien annonce le Seigneur, quand il rend présent le Seigneur, il se joue la même chose que ce qui est joué avec Jésus. Et donc, il y a don de salut. La différence, donc la question du salut est très présente, la différence, si vous voulez, avec d'autres pensées, c'est que, bien sûr, le Seigneur peut rejoindre tout le monde, on ne sait pas comment. Mais quand quelqu'un accueille la parole de l'Évangile, il accueille directement salut. Il y a quelque chose d'objectif, si vous voulez, ou plutôt de réel qui se passe à ce moment-là. Et ça change tout. Alors le tournant anthropocentrique, ou anthropologique de la culture occidentale, va vraiment mettre en question l'ensemble de la mission. Parce que notre époque, notre culture occidentale, j'entends, est marquée par ce qu'il me semble être au niveau philosophique l'inverse de la révolution copernicienne. De plus en plus, l'homme conscient lui-même veut être son propre principe, sa propre référence et sa propre fin. Alors, la difficulté n'est pas qu'il veuille l'être. Le problème, c'est qu'il veut l'être exclusivement, absolument et uniquement par lui-même. Et si on décline cela, ça rend la logique de la mission caduque de multiples manières, se conjugue de manière impressionnante. Si l'homme est sa propre référence, son propre principe est fin, alors il n'y a pas de plus grand que l'homme. Et il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinisation, l'homme ne vient pas de Dieu, il n'est pas déterminé par Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie en Dieu, il n'y a pas à être élevé. Dieu n'agit certainement pas en l'homme, et le Christ n'est pas Dieu. Il n'est qu'un homme quelconque dans l'histoire. Donc, l'Église et les sacrements ne sont pas des signes efficaces de la grâce. Et annoncer un Dieu pour lequel l'homme est fait, proclamer son amour et son salut, ça n'a plus de sens. C'est un non-sens, voire un mensonge. Je décline un peu plus. La liberté de l'homme n'est pas plénitude, elle n'est pas présence intime à soi. C'est qu'un horizon inatteignable, c'est qu'un projet. Et donc, la mission est atteinte à la liberté de l'autre dans la mesure où je cherche à imposer à l'autre mon propre projet. Donc, c'est scandaleux. Le langage, ce n'est pas le lieu à l'intérieur duquel la réalité et la vérité se disent. Il n'est pas vérité. Tout langage n'est qu'un projet pour dire une réalité que, pour finir, on n'atteint jamais. Toute parole est relative. Dieu ne peut s'y révéler. Le Christ, de ce fait, n'est pas la vérité. Ce qui veut dire que l'Écriture sainte n'est pas révélation de Dieu, l'Histoire sainte non plus. C'est une opinion parmi d'autres, tout aussi valable que toutes les autres. Et donc, s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de péché non plus, bien sûr. De nouveau, le salut n'est plus nécessaire. Et toutes les religions et toutes les sagesses du monde se valent. Annoncer et affirmer que le Christ est la vérité, ça revient de ce fait à manquer de respect et d'humilité. C'est absolutiser son point de vue, prétendre posséder la vérité et l'imposer à l'autre. C'est en fait exercer un pouvoir pernicieux. L'autre, dont je parlais de la liberté du langage, l'autre, ce n'est plus celui avec lequel je peux entrer en communion, ce n'est pas celui qui peut me donner à moi-même, qui peut me révéler des belles choses, mais c'est l'obstacle potentiel à la réalisation de ma volonté. Et donc il n'est plus médiation heureuse qui me permette de devenir moi-même. Les relations entre les hommes sont marquées plutôt par le conflit des libertés. Et la société, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Les institutions, et donc l'Église qui la compose, sont des instruments aux mains de quelques-uns pour le gagner. Donc le Christ n'est pas médiateur et l'Église non plus. Et le Christ est encore moins sauveur. Église aussi. L'histoire, ce n'est pas le lieu où la vérité se donne. C'est que le terreau qui permet à chacun de devenir lui-même, mais en s'imposant et il faut nier l'autre pour que je puisse être moi-même. Il faut nier le passé. Donc la tradition n'est pas source de vie. Les institutions et les rites ne sont plus que la seule expression de la parole et de la volonté limitée de mes aïeuls ou d'autres. Et donc il faut pouvoir les transformer, les supprimer en fonction de ce qu'il plaît aujourd'hui. Le corps, enfin, n'est plus le lieu du don de soi, c'est plutôt l'obstacle à la pleine réalisation de la liberté. C'est celui qui impose les limites. Et donc, ce n'est plus le lieu où je peux être en contact avec les autres non plus. Et donc, on voit que cette manière de voir, cette liberté qui se prend pour sa propre référence, sa propre origine, référence et fin, ce que j'appelle, à la suite d'un autre, la subjectivité transcendantale, remet en question profondément toute la mission. Elle sape les fondements dogmatiques. Alors, le surcroît, c'est que la geste de Dieu dans l'histoire est réponse au péché de l'homme. Et le péché, c'est précisément cette subjectivité transcendantale poussée à bout. Il faudrait montrer, je n'ai pas le temps ici, de montrer comment la mission est assomption de cette dynamique-là dans ce qu'elle dit de vrai, en partie. Donc de sa part de vérité, de son auto-affirmation, en même temps qu'elle est son débordement heureux. Dans l'acte de mission, on pourra en parler plus tard, on le voit. Donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je résume, le fondement premier de la mission, c'est l'être trinitaire de Dieu, son amour débordant, qui ne se laisse pas arrêter par le péché. Il se déploie par l'envoi et les missions du Fils et de l'Esprit dans l'histoire, qui s'y décline de diverses manières. En raison du dynamique de la vie trinitaire et de la manière dont la Trinité agit dans l'histoire, les différents fondements de la mission sont intrinsèquement et organiquement liés entre eux. Elle est liée au mystère pascal, au cœur de Jésus, qui le dit de manière symbolique. Il s'agit en fait de tenir ensemble la totalité organique de la réalité du vrai, c'est-à-dire à respecter et accueillir toutes les différentes déclinaisons historiques de la mission et leurs articulations. Ce sont tout cela autant de fondements dogmatiques de la mission dont le cœur de Jésus est par excellence le symbole. Je vous remercie.
Merci Père Grégoire et Père Benoît pour vos apports. J'ai trouvé de belles congruences entre vos deux propos, notamment en ce qui concernait l'aspect trinitaire des fondements dogmatiques de la mission, à travers aussi ce que vous avez exposé l'un et l'autre sur les processions trinitaires, notamment chez Thomas d'Aquin. Pour nous, souvent, la mission est comprise comme cette relation entre l'envoyé, comprenons le missionnaire, vers le destinataire de l'évangélisation, la personne à évangéliser. Et vous nous avez permis de prendre du recul à travers vos exposés et de bien voir que les fondements dogmatiques de l'évangélisation sont d'abord à chercher dans cette relation de l'envoyeur, comprenant le Fils, vers l'envoyé qui est l'évangélisateur. Et vous avez insisté sur cet équilibre, sans doute, entre cette vie dans l'envoi du Christ par l'Esprit-Saint. Est-ce que vous pourriez préciser, peut-être l'un et l'autre en trois minutes, votre pensée sur le sujet et comment est-ce qu'on peut articuler une vraie christologie et une vraie pneumatologie dans l'évangélisation ? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur tout le mystère de l'Église que vous avez évoqué, qui tient compte aussi des sacrements ? Parfois on enferme l'évangélisation simplement dans la vie de l'Église, on dirait que les sacrements pourraient suffire, donc peut-être une christologie qui suffirait, en oubliant la pneumatologie, puis parfois on a l'autre excès, on rejette peut-être la partie Église et sacrement au profit d'une simple liberté de l'Esprit-Saint. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails, l'un et l'autre ?
C'est une vaste question. Je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'Église, elle est d'abord la bénéficiaire de l'envoi du Fils et de l'Esprit-Saint. Donc il y a déjà une mission divine dont l'Église est le fruit, en fait. Et donc, effectivement, pour prendre une image à la mode, c'est l'ADN de l'Église, en fait. Et donc, notamment, cette mission visible du Fils, l'incarnation, avec le Sacré-Cœur, le mystère pascal. L'Église poursuit cette mission visible dans son existence visible. Et le Christ ayant envoyé l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint meut l'Église de l'intérieur. Et donc, je crois que dans la mission de l'Église, qui donc a une composante christologique et pneumatologique, comme vous dites, l'Église, dans sa mission, elle manifeste au fond la grâce qui l'a fait vivre. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que le missionnaire n'était pas toujours un chrétien bien confirmé. Peut-être qu'il a la foi qu'il veut transmettre, mais pas nécessairement la charité, pas les œuvres. Et pourtant, l'Église ne manque pas de la charité, en fait. Donc l'Église est missionnaire par elle-même. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots.
Merci, Père Grégoire.
Il me semble que la difficulté qu'on a tenue les deux est liée à cette difficulté de tenir le singulier et l'universel. Et la subjectivité transcendantale sépare les deux, en fait. Ne rend pas possible la reconnaissance que l'universel se donne dans le plus singulier. Ça, c'est une des grandes difficultés. Et donc, si on part de l'idée que l'esprit, l'universel qui rejoint chacun là où il est, bien le Christ devient assez relatif. Et donc, toute incarnation, si je peux dire comme ça, du Christ, ou toute la poursuite de son incarnation à travers l'Église, devient caduque aussi. Et donc, il n'y a plus d'intérêt d'aller voir quelqu'un. Parce que de toute façon, l'esprit va le rejoindre là où il est. Or, ce qu'on voit quand même, c'est que l'Esprit, il pousse vers le Christ, il conduit au Christ. On le voit très bien dans l'Évangile de Jean, en Jean 14, 15 et 16, où l'Esprit, Jésus annonce que l'Esprit introduira dans toute la vérité qu'il est lui-même. Et si on prend la dynamique de la création qui aboutit ultimement à l'homme, on voit qu'il y a une logique de toujours de plus en plus concret. De réaliser, quand on veut vraiment s'approprier quelque chose, eh bien, il faut que ça devienne concret. Si je veux prier, si je ne prends, décide pas du lieu et du temps et de la durée du temps de prière, je ne vais pas prier. Donc, doit devenir nécessairement concret. Et donc, l'esprit pousse à ça, en fait. Il va toujours conduire à une union plus étroite au Christ très concret, incarné, et donc à la communion avec tout son corps. Et c'est par là, alors de manière visible et parfois invisible aussi, qu'il entre, il fait entrer en communion avec le Père.
Merci. Une deuxième réflexion m'est venue en vous écoutant. Vous avez tous les deux aussi bien mis en valeur le fondement de la foi, de la mort et de la résurrection de Jésus comme fondement dogmatique de l'évangélisation. On voit aussi que dans la prédication de Jésus est très présente l'annonce des fins dernières. Comment est-ce qu'on pourrait aussi intégrer ces dimensions un peu de l'eschaton, de l'eschatologie, comme fondement dogmatique de l'évangélisation? Comment est-ce qu'ils peuvent nourrir notre acte missionnaire?
Ben, je crois que l'évangélisation, elle s'adresse à l'homme, en fait. Et donc, l'homme, il est porteur de ces questions-là sur sa destinée. Et donc, évidemment que si la mission n'a pas de contenu eschatologique, elle ne répond pas à un désir. Et donc, au contraire, l'eschatologie permet de trouver une pierre d'attente, de correspondre à un désir que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme. Et donc que la mission, un dessein originel de Dieu que la mission de l'Église permet d'accomplir et d'achever.
Il me semble que l'eschaton, c'est ce qui est déjà maintenant. Le Père Grégoire et moi-même, on a tous les deux parlé de la Trinité. Mais c'est ça, en fait, l'eschatologie. C'est vivre en Dieu. C'est vivre de cette vie trinitaire profonde. Et cela commence maintenant. Donc la question c'est, est-ce que je permets à quelqu'un de rentrer maintenant de manière claire, déjà, de vivre déjà de l'intérieur de la vie de la Trinité? Et c'est cela qui, ultimement, va se déployer. Mais il faut que ce soit une réalité présente maintenant. Et par la mission, on le rend présent réellement, invisiblement, sauf par les signes sacramentels, ou ecclésiaux, mais on le rend vraiment présent.
Merci. Peut-être une dernière question avant de céder la place aux autres intervenants. Peut-être vous, de votre place, justement, de dogmaticien, quelle parole d'encouragement vous souhaiteriez adresser aux missionnaires, à l'Église aujourd'hui? Quelle invitation peut-être à un approfondissement pour que l'évangélisation soit toujours plus fidèle au mandat du Christ que vous avez bien mis en valeur?
Oui, il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire dans mon intervention parce que j'étais pris par le temps, c'est que comme on l'a redit au début de cette journée, il y a une phrase de Paul VI qui dit que l'Église existe pour évangéliser en fait, ce qui est pas faux puisque c'est Paul VI qui le dit évidemment, mais quand même l'Église est aussi le principe de l'évangélisation, elle en est aussi la fin, c'est-à-dire que c'est vrai que quand j'évangélise, je travaille à la gloire de Dieu. Et pourtant, l'évangélisation, c'est l'Église pérégrinante qui est l'instrument de sa propre croissance. Et donc, de même que Dieu n'est pas mission, mais qu'il est mission quand il se communique, il se fait connaître. De même, l'Église, elle n'est pas mission. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dans le ciel, l'Église sera pleinement constituée. Et donc, il n'y aura plus de mission au ciel. Et l'Église, pourtant, sera pleinement elle-même. Donc, je crois que c'est important pour la mission de se dire que Nous ne sommes pas seulement une entreprise qui fait quelque chose, mais nous avons une vie à communiquer. Nous nous intégrons dans un corps, en fait. Et la mission n'est pas sa propre finalité. Je crois que ce serait plus vrai de dire que l'Église est la fin de la mission.
Je dirais que la mission, c'est d'être intégré au mystère pascal. Donc, c'est faire l'expérience à la fois d'une mort à soi-même, mais encore plus de la résurrection. Et le vivre concrètement dans une rencontre. Il y a un moment où on meurt à soi-même, on est dépassé, dépossédé de soi-même, et en même temps, il est régulièrement donné de voir que Dieu a agi et qu'il me dépasse complètement. Et ça, c'est source de joie.
Merci de nous laisser dans cette joie. Merci pour vos interventions qui lancent bien notre colloque. Merci.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. Écoutez KTO Radio.
1700e anniversaire du Concile de Nicée et du Credo. Trois questions au père Alban Massy, directeur de la Nouvelle Revue Théologique et enseignant en théologie.
Le 3 avril 2025, la Commission théologique internationale a publié le document qui s'intitule « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur » pour célébrer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée.
Quelles sont les particularités de ce document intitulé « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur » ?
La Commission théologique internationale a pour but d'aider le pape, les évêques, le magistère à réfléchir sur des questions relatives à la foi et relatives aux mœurs, à l'éthique. En 1985, par exemple, c'était le 20e anniversaire de la fin de Vatican II, eh bien, la CTI, Commission théologique internationale, a écrit un très beau texte sur l'ecclésiologie. En l'an 2000, c'était le jubilé de l'incarnation, elle a écrit un texte sur la purification de la mémoire. Ici, on fête en 2025 le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a proclamé le credo de Nicée, le « je crois en Dieu », et a proclamé que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était « homoousios », c'est-à-dire de la même substance que le Père. Eh bien, la CTI essaye de réfléchir à quoi ça nous sert de savoir ça. Et donc, à partir de là, ce document a une saveur toute nouvelle par rapport à des documents du magistère, parce qu'il propose une lecture doxologique de l'histoire de l'Église et de l'histoire des dogmes.
Comment le texte éclaire-t-il le credo et la méthode du Concile de Nicée ?
Le Concile de Nicée est présenté comme un événement de sagesse, beaucoup plus que comme simplement une réflexion sur la dogmatique théologique. Et le symbole est présenté par le texte par une très belle formule. Le symbole de Nicée-Constantinople est une icône en parole du mystère du salut. Une icône, voilà. Une icône en parole. Dire que Jésus est Fils de Dieu, homoousios au Père, c'est-à-dire de même substance, eh bien, c'est oser regarder Dieu à travers le visage de Jésus. Le terme homoousios est présenté non pas comme une hellénisation, une rationalisation de la foi, mais pour la première fois dans l'histoire de l'Église, on utilise un terme qui n'est pas directement biblique pour parler du mystère de Dieu. Et au fond, c'est comme une digue pour éviter les malentendus. On a besoin de cet arsenal de vocabulaire conceptuel pour trouver la manière de dire comment Dieu nous sauve lui-même quand il vient nous sauver. C'est lui-même qui vient à travers son Fils. Alors, il y a dans ce document aussi une interprétation très importante de la méthode de Nicée. Il dit, faut pas... Le credo de Nicée, on le dit comme ça dans nos églises, mais on n'y fait pas toujours attention. Et est-ce que vraiment on y croit, mais surtout, est-ce qu'on le prie ? Est-ce que, comme nous prions, nous croyons ? Alors, il y a une sorte de méthode de Nicée. Comment est-ce qu'on va croire tous ensemble ? Le Concile a commencé par des controverses. Et le document de la CTI va dire il y a des dissensus qui vont arriver au consensus. Et alors, il y a un très beau paragraphe sur la méthode du Concile de Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, où on voit comment on arrive à une entente. On ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé récemment avec le synode sur la synodalité. Comment est-ce qu'on arrive à marcher ensemble ?
Comment les chrétiens peuvent-ils célébrer Pâques dans l'unité ?
Alors, il arrive qu'on fête Pâques à la même date, tous les chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes, mais le plus souvent, on est à des Pâques différentes à cause de calendriers différents, et le texte demande, essayons de faire des efforts œcuméniques pour pouvoir célébrer Pâques ensemble. Pourquoi ? D'une part, il faudrait se retrouver autour de la mémoire biblique de Pessah, et ne pas oublier que quasiment en même temps que la Pâque chrétienne, il y a la Pâque juive. Cette Pâque juive qui célèbre un Dieu unique, mais un Dieu immense. Et dans cette immensité, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis aussi, une fête qui rassemble les orthodoxes qui n'ont pas le même calendrier que les catholiques, les protestants qui suivent les catholiques pour ce calendrier, fêtez Pâques tous ensemble, quel témoignage de communion qui correspondrait vraiment à ce que le Concile de Nicée souhaitait.
Radio.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours un peu étonnant de sœur Annick Marie Antoine de l'Amour Miséricordieux. J'ai bon ?
Tout à fait.
Merci d'être présente sur notre plateau. Vous allez nous parler de votre livre qui vient d'être publié, qui s'appelle « Et Dieu m'a visité, converti de l'islam et guéri de la maladie » paru aux éditions Salvator. Oui. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans le diocèse de Créteil, donc vous n'avez pas mis trop de temps à venir nous retrouver.
Tout à fait.
Mais vous êtes originaire de Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Alors, on va parler de ce parcours un petit peu étonnant, j'irais même d'étonnant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
Merci Cyril, merci de votre accueil. J'ai choisi un texte de l'évangile de Luc, au chapitre 10, du verset 21 au verset 24. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se retourna vers ses disciples et il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. »
Pourquoi avez-vous choisi particulièrement ce texte ?
Ben parce que je crois qu'il résume tout ce que j'ai pu vivre en Dieu, en Jésus. Et je suis heureuse de voir ce que j'ai pu voir jusque-là, entendre ce que j'ai pu entendre et découvrir. Et c'est surtout que je suis contente d'être associée à la louange de Jésus, qui révèle aux tout-petits, je crois que j'en suis une, ce qui est caché aux sages et aux savants, parce que je crois que toute mon histoire est de l'ordre, vraiment de la grâce. J'aurais jamais imaginé mon parcours avant qu'il se déroule, tout simplement.
Alors juste avant de donner votre témoignage, j'ai juste besoin, moi et aussi pour les téléspectateurs, que vous nous éclairiez un petit peu sur ce vêtement, à la couleur merveilleuse, qui nous fait penser un petit peu au carême quand même. Mais vous êtes violette de la tête aux pieds, avec ces scapulaires blancs.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, dites-nous.
Je suis membre de la communauté Mère du Divin Amour, une communauté nouvelle qui a en son sein un institut religieux. Donc l'institut religieux féminin Mère du Divin Amour. Et justement, nous portons le violet et le blanc. Donc le violet qui est un mélange de rouge et de bleu, donc couleur du Saint-Esprit, de feu, couleur aussi de sang du martyr, du témoignage et du bleu marial. Parce qu'on est quand même une communauté et surtout une communauté mariale. Et bien sûr, le violet, couleur du carême, de l'Avent, donc on est dans l'attente, voilà, de la manifestation en gloire de Jésus. Et le blanc qui nous rappelle qu'on est en marche vers la sainteté, puis voilà, il y a quelque chose de beau qui nous attend après notre vie sur terre. Ils sont heureux, voilà.
Et sur votre croix, on aperçoit la Vierge Marie et
le Saint-Esprit, Saint-Esprit, justement, cette couleur feu, et le feu du Saint-Esprit et l'humilité, la douceur, le silence de Marie, voilà.
Alors, vous vivez en France, dans le diocèse de Créteil, où vous avez une vie qui marie contemplation et action.
Tout à fait.
Et l'action, c'est la mission ?
Tout à fait. Je suis rattachée au diocèse de Créteil, voilà, au service des nouvelles initiatives d'évangélisation. Voilà, tout simplement.
Et en gros, vos journées, ça ressemble à quoi ?
À du travail d'évangélisation, à des propositions d'initiatives, à l'accompagnement des paroisses ou des groupes qui en ont besoin dans leur chemin. C'est la mise en place aussi des maisons d'évangile, une proposition très forte dans notre diocèse, voilà. L'évangile qui s'invite chez soi. Voilà.
Alors, si on fait un saut dans le temps, genre retour vers le futur, ou quelque chose comme ça, vous avez vu le jour en Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
C'est loin d'ici, hein.
Oui, c'est une histoire assez étrange, parce que je suis conçue en France, mes parents vivaient en France, et ils ont eu la géniale idée, voilà, d'aller à Dabakala, une ville. Voilà, j'ai aucune attache avec cette ville d'ailleurs. Il paraît que ma tante, donc l'aînée de mon père, y était sage-femme. Et donc mon père voulait être sûr que je naîtrais dans de très bonnes conditions, comme par hasard. Et donc je suis née à Dabakala. Une ville de la Côte d'Ivoire. Ben, je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'elle est située, parce que voilà, c'est pas ma région.
Vous êtes combien de frères et sœurs ?
J'ai deux frères et deux sœurs.
Tous nés en France ou là-bas ?
En Côte d'Ivoire.
Aussi ?
Tout à fait.
Avec la même tante ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais bon, voilà.
Et aujourd'hui, la famille, elle vit où ? En France ou en Côte d'Ivoire ?
Mon père est en France et ma mère en Côte d'Ivoire.
D'accord. Mm-hmm. Et la Côte d'Ivoire, c'est...
J'ai dit le contraire. Mon père en Côte d'Ivoire et ma mère en France.
D'accord.
Voilà. Et deux de mes sœurs en France et mon frère en Côte d'Ivoire. Voilà.
Et vous avez vécu pendant combien de temps en Côte d'Ivoire ?
Oula. Une grande partie de ma vie, puisque j'y suis retournée quasiment à l'âge de 6 ans. Je revenais de temps en temps, et voilà. Mais j'ai presque tout le temps vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2008. Je crois que je suis en France depuis 2008 de manière permanente. Je me sens guémée, puisque c'est une affectation.
D'accord. Voilà. Alors, vous êtes née avec... je sais pas si on peut parler de sang, mais avec une croyance musulmane et une croyance chrétienne.
Tout à fait, oui.
Et on a mélangé tout ça, et vous voilà.
Oui, oui, effectivement, mon père est musulman d'origine, puisqu'il est devenu chrétien, donc il est musulman d'origine, et ma mère était catholique, et tous les deux vivaient leur amour, hein, sans problème. Mm-hmm. Et il se trouve qu'à l'âge de 6 ans, ma mère me consacre à la Vierge Marie à Lourdes. Et quelques temps après, elle décède. Donc, on rentre en Côte d'Ivoire. Mon père retourne en Côte d'Ivoire. Et c'est là que je vais vraiment commencer mon cheminement dans l'islam. Sinon, jusque-là, mes derniers souvenirs, c'était de ma mère. En tout cas, c'était le Notre Père, l'Ave Maria à Lourdes. Mmh. Et voilà, la messe. Voilà.
Qui a imprimé quelque chose de beau dans votre cœur.
Tout à fait.
Que vous allez retrouver plus tard. Mais alors, les années où vous allez vous engager dans l'islam... C'est pas juste le bout des doigts, hein.
Ah ouais.
C'est à fond.
Ouais, il paraît que je suis totale, il paraît. Perfectionniste, voilà, c'est tout ou rien en général. Bon, ça doit être vrai, j'en sais rien, mais toujours est-il que quand j'ai intégré l'islam, c'était dans la démesure par rapport aux personnes de mon âge en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc du coup, très jeune déjà, pour moi, il fallait faire le ramadan. Et en plus, ma mère, celle que j'appelle ma mère aujourd'hui, donc l'épouse à mon père est musulmane. Mmh. Et donc du coup, moi, c'était une fierté en fait. C'était de lui donner la fierté d'être vraiment musulmane. Et je le vivais à fond. J'ai fait l'école coranique. Donc pendant les vacances, on allait à l'école coranique. Et bon, je ne comprends pas l'arabe, hein, c'est sûr, je faisais des traductions. Et une fois que j'ai été au collège, je me suis engagée de manière radicale dans l'AUMC, qui démarrait d'ailleurs en Côte d'Ivoire, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Et là, j'étais à fond. Tellement à fond que très vite, je suis passée de commissaire au compte à vice-présidente, ce qui était une grande première. Voilà. Donc, si c'est ça la démesure, oui.
Alors, vous le racontez bien dans le livre.
Hein. Oui.
On vous suit d'ailleurs et on ne lâche pas le livre. Hein. On a envie de savoir la suite. Oui. Là, vous êtes vraiment engagé et c'est ça. En entier, ça ne se discute pas. Vous êtes à fond. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qui vous trouble. Oui. C'est une sorte de paradoxe avec... avec Dieu, en fait.
C'est ça, tout à fait. Oui, plonger dans l'islam, pour moi, c'est l'islam et il n'y a pas d'autres, voilà, d'autres religions. Donc, je vais en guerre, entre guillemets, contre tout ce qui n'est pas musulman. Et surtout, la cible pour moi, la cible qui m'a fait été assignée, c'était d'islamiser les chrétiens. Et donc, moi, j'étais tout le temps présente aux réunions et j'allais même au-delà. Donc, on avait à l'AUMC tous les jeudis après-midi une rencontre avec Moalim, donc le maître qui nous formait. Mm-hmm. Et un jour, Moalim vient, il raconte un peu, il nous partage un peu sur la clémence de Dieu, puisqu'on dit au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Moi, ça me rejoignait vraiment, cette image du Dieu miséricordieux. Et tout au long de son enseignement, il nous parle de la balance, voilà, nos péchés qui seront pesés. Bon, ce que moi j'appelle après la théologie de la balance.
Et la fin de la vie, on regarde les œuvres bonnes, les œuvres pas bonnes.
Voilà.
Et s'il y a plus d'œuvres pas bonnes que de bonnes, qu'est-ce qui se passe?
On va en enfer.
Voilà.
Et chaque péché qu'on a commis a un châtiment particulier. Et moi, quand je l'entends, je suis horrifiée.
C'est vrai que le détail que vous donnez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez impressionnant.
Ah ouais, je suis horrifiée. Je dis, ok, j'ai pas une vie, je vais mettre en guillemets sale, mais je ne suis pas sûre que j'ai plus de bien que de mal. Comment je l'évalue? Je crois que on va arrêter l'histoire à ce niveau. Et c'était dommage pour mes responsables, parce que j'avais été pressentie cette année-là, justement pour aller en Arabie Saoudite avec mon président, pour non seulement apprendre l'arabe et pour une radicalisation, en fait, dans l'islam. Donc c'était un an pour Allah. Et moi, j'étais déjà très heureuse d'y aller. Et voilà, boum, tout change. Voilà. Ça me bloque, je ne peux pas mentir, j'ai besoin d'être cohérente, je ne peux pas prier ce Dieu-là tant que je ne comprends pas qui il est.
Ben oui.
Et voilà, donc ce jour-là, je prétexte que je suis en période menstruelle, donc je refuse de prier, et quand je pars, je lève les yeux vers le ciel et je dis, bon, je crois que tu ne vas pas gagner sur moi, Annick, vis ta vie, meurs, va en enfer, mérite l'enfer. Voilà, pour moi, c'était clair. Il fallait que je vive une vie qui me permette de mériter l'enfer.
Alors, à nouveau, quand vous dites vivre sa vie, c'est pas non plus du 10%, c'est du 120%.
Ah ouais. Ah ouais.
Et là, voilà, vous vivez. Vous aviez quel âge à ce moment-là, à peu près?
On va dire autour de 17 ans.
17 ans.
17 ans. Alors là, 18, ouais, 17 ans à peu près, ouais.
La nuit, vous connaît comme une grande danseuse.
Ah oui, oui.
Vous sortez tout le temps, vous faites la fête tout le temps, vous essayez de ne pas vous faire attraper par vos grands-parents chez qui vous logez.
Pas fait.
Et, bon, les années passent, ça dure combien de temps cet état de vie?
Ça ne dure pas longtemps, malheureusement, à cette époque pour moi. Ça ne dure pas longtemps parce que ce n'était pas évident. Ouais, mais ça dure à peu près 6-7 mois, le temps de l'année blanche.
Oui.
Voilà, parce que là, je suis en fin de troisième, classe de troisième, je vais en seconde, et en seconde, ça continue cette vie de folie, et puis on a l'année blanche en 90, et quand il y a l'année blanche, c'est l'occasion d'aller très très fort dans cette
vie.
En
un mot, l'année blanche, c'est...
L'année blanche, c'est une année qui a été décrétée, en fait, comment on va dire, un peu... une année inactive au plan scolaire parce qu'il y avait des troubles en Côte d'Ivoire. Donc on a demandé à tous les étudiants, les élèves, de rester chez eux tout au long de l'année, le temps que les problèmes sociaux et politiques se règlent. Voilà.
Alors, pendant ces mois où vous faites la fête jusqu'à plus soif, on se dit que vous avez une sacrée santé. Et puis on se dit aussi que finalement, en le relisant, et on le sent dans votre livre, vous êtes quand même protégé. Hein.
Totalement. Franchement, j'aurais aimé faire beaucoup de choses que je n'ai pu faire. Je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi. Je me souviens que la dernière fois que je suis allée en boîte de nuit et que j'avais projeté une vie un peu bizarre, vous ne le croirez pas, mais j'ai dormi toute la nuit en boîte avec toute la musique qu'il y a. Et mes amis en ont été tellement dégoûtés qu'ils m'ont dit vraiment, tu ne vaux pas le coup de quelque chose. Oh, quoi. Non, voilà, c'est des expériences comme ça.
C'est pas une vraie frétard.
Et pourtant.
Et pourtant.
Et pourtant.
Oui, oui. Ouais. Ah oui, quand on lit votre livre, on se dit, comment elle fait ? Elle a la santé. Et alors, ça va être dans ce cadre-là, de jusqu'au boutisme, et en même temps, vous êtes perdu hein, quand même, à ce moment-là.
Totalement perdu, parce que je crois qu'il y a quelque chose quand même qui veut Dieu en moi. Je crois qu'il y a une soif d'absolu dont j'ai toujours été consciente. Totalement consciente. Et même quand je vis cette vie, c'est pas parce que je la voulais. C'est parce que je suis en crise contre Dieu. Je veux lui faire mal.
Et puis c'est quand même ce Dieu qui vous a pris votre maman. Hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça aussi, j'ai eu du mal à le lui pardonner. Et il fallait vraiment prendre... Voilà. Et cette fois-ci, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Dieu, tu ne gagneras pas. Mais très vite, j'en ai été lasse. Et il fallait que je gagne jusqu'au bout en me donnant la mort. Dieu serait surpris de me voir parce que ce n'est pas lui qui aura décidé de m'appeler. Et c'est dans ce contexte-là que je vais faire la plus belle rencontre de mon histoire. Voilà.
Racontez cette plus belle rencontre.
La plus belle rencontre, mais le beau visage, les beaux yeux, l'amour infini, l'amour miséricordieux, Jésus. Voilà, vraiment.
Où, quand, comment ?
Bah, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. J'avais déjà fait le tour de la famille, sans le leur dire, bien
étant
sûr.
Étant toute gentille, toute délicate.
Voilà. Et puis,
vous aviez mis des médicaments de côté.
Tout à fait.
Vous étiez habillée toute belle, tirée à quatre épingles.
Tout de blanc d'ailleurs, ouais. Et j'avais juste besoin de me maquiller, parce que je voulais être belle, tout simplement. Et puis, un nouveau testament sur ma coiffeuse. Après, je me demande si ce sont des gens de passage. Je ne saurais pas vous dire. Jusque-là, je n'ai pas encore élucidé le mystère.
Mais parce que ce livre fait sur votre table de nuit.
Mais moi, je suis surtout attirée par le fait de voir un nouveau testament. Parce que quand on parle de testament, on parle de richesse, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est un truc que je vais découvrir ? Mon grand-père, qui était d'ailleurs assez nanti, est-ce que je suis en train d'hériter de lui ou quelqu'un en train d'hériter sans que je sache ? Voilà, donc moi, je vais le lire, ce livre. Et puis bon, après, j'hésite parce que je ne veux pas perdre mon temps à lire un truc alors que je vais mourir bientôt. Et puis bon, j'entends intérieurement, lis, tu vas mourir moins bête. Et puis voilà, tu serais un peu plus sachante. Et j'aimais beaucoup lire à cette époque. Donc du coup, je dis pourquoi pas. Et puis les tout petits, en une heure, j'aurais terminé. Et je me mets à lire et là, waouh, la rencontre se fait.
Et là, c'est la rencontre avec ce Dieu miséricordieux,
oh, mon Dieu.
Ce Dieu plein d'amour, ce Dieu qui nous accepte et nous pardonne nos fautes que nous faisons en vrai. C'est pas non plus tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau.
Tout à fait, tout à fait. Je suis frappée d'une manière spéciale par l'évangile de Luc, le chapitre 15. Il est capable de laisser la seule brebis. Très vite, je me suis identifiée en fait à cette brebis qu'il laisse et qu'il va... Voilà. Enfin, il laisse les 100. Et il va pour la seule.
Oui.
Ouais, je suis touchée. Le fils on va dire le père prodigue maintenant, ouais. Mais qui attend, en fait. Donc, en fait, je fais tout ça, mais Dieu m'attend. Je suis bouleversée. Déjà, avec l'évangile de Matthieu, Marc, j'étais bouleversée. Mais j'avoue qu'à l'évangile de Luc, déjà, je trouvais que c'était redondant.
Oui.
Puisque je lisais tout le temps la même chose. Mais j'avais toujours une nouvelle approche. Et là, j'ai été vraiment frappée au cœur. Et... fallait que Dieu me parle, fallait qu'il me dise qui a raison, qu'est-ce qui est vrai. Bon, on finit avec l'évangile de Jean, voici ta mère. Bon, tout ça, je ne comprends pas grand-chose, mais je sens que je suis illuminée de l'intérieur, c'est ce que je veux. Mais bon, Issa, je le connais quand même, c'est un prophète, mais là...
Ça, c'est Jésus ?
C'est Jésus, mais Jésus, ce n'est pas ce qu'on m'a dit.
Oui.
Issa, donc, je commence à être perturbée, j'ai besoin d'avoir des réponses. Donc, j'oublie, en fait, qu'il faut que je meure. Je commence à me poser des questions, je ne comprends pas, je prie intérieurement, je veux savoir. Et puis, je fais une expérience que je ne saurais pas vous décrire, parce que ce n'est ni une apparition, ce n'est ni une vision, mais j'ai l'impression d'avoir une image intérieure du visage de Jésus. Miséricordieux, je le découvrirai plus tard, avec des yeux, mais vivants. C'est surtout ça qui me marque. Mais je ne dors pas, ce n'est pas un rêve. Je sais pas comme si je vous voyais, mais c'est quelque chose que j'arrive jusqu'à présent pas à expliquer, même si j'essaye de comprendre toujours dans le milieu charismatique ce genre d'image intérieure. Et je suis saisie, en fait. Et là, je comprends que ma vie serait plus la même. Je comprends que ces yeux qui se posent sur moi sont des yeux qui ne parlent pas de balance, mais qui parlent de... j'efface tout, quoi. Et je t'aime, tout simplement.
C'est super.
Voilà, tout simplement, voilà.
Alors, le temps passe, hein. On est obligé d'avancer et on invite les gens à aller lire dans le livre les différentes étapes merveilleuses. Hein. Comme je disais, on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui vous arrive. Vous allez donc vous retrouver trouver une communauté qui va vous aider un petit peu à rentrer dans l'Église et à découvrir. Oui. Vous allez vivre des expériences assez fortes. Spirituellement, et puis à un moment vous vous retrouvez avec une maladie.
Oui, tout à fait, jeune religieuse, voilà. Je suis à table, je mange et en plus ce jour-là je me souviens très bien de ce que je mangeais. C'est une sauce que j'aime particulièrement, même si j'ai pas trop le droit aujourd'hui, et le morceau de viande ne peut descendre, et je suis inquiète parce que quelques mois auparavant, puisque je suis trépanocytaire, j'ai des médicaments à prendre. Et je commence à ne pas réussir à les avaler correctement. Mm-hmm. J'en parle à mon médecin, mais bon. Après, moi, je suis de nature très... No stress, donc du coup, ça passe rapidement. On ne va pas plus loin. Et donc, quand mon œsophage se ferme ce jour-là, je suis inquiète parce que j'arrive à rien avaler, même plus l'eau. Et je commence à avoir très peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Donc j'essaye pendant des heures impossibles. Donc je recrache le morceau. À partir de ce moment, je ne peux plus avaler d'eau, je ne peux plus avaler de nourriture. Bon, vraiment, ouais, c'était compliqué.
On ne tient pas très longtemps. Hein.
Voilà. Et voilà, pendant deux jours comme ça, et moi je retourne dans ma communauté, mes sœurs sont autour de moi. Bon, on sent bien que je vais mourir, puisque je ne peux pas m'alimenter. Mmh. Et puis, bon, ben, on essaye à coup de perfusion, mais voilà. Et là, il y a un jeune séminariste à cette époque qui se prend d'affection pour moi. On était déjà très amis. Il m'appelle affectueusement ma grande sœur. Il me regarde, il me dit, non, mais je ne suis pas prêt à te laisser mourir, en fait. Donc, un matin, il débarque dans ma chambre avec mes sœurs et voilà, je t'ai apporté la communion. Moi, je mise mon sacerdoce sur ce qui va se passer aujourd'hui. Si tu recraches l'hostie, c'est pas nécessaire que je sois prête. Ça veut dire que il n'est pas présent dans l'Eucharistie.
Donc c'est ça. Il était séminariste.
Il était séminariste.
Et lui dit, ah oui.
Il mit son sacerdoce sur ce qui va se passer ce jour-là.
Seigneur, si tu n'agis pas maintenant, non, c'est que t'es pas là en fait.
Tu n'es pas là.
Vous de votre côté, vous vous dites, il y a toutes les sœurs qui sont là. Wow. Si ça marche pas, ça ouais, va pas être bon non plus.
C'est ça. Je suis leur responsable. Et donc, je ne sais pas. Et moi, je ne peux pas douter, en fait, là, actuellement, de l'Eucharistie, parce que j'avais déjà vécu une expérience avec le Saint-Sacrement. Mmh. Donc, je suis inquiète de ce qui va se passer, en fait.
Et ce n'est pas provoquer le Seigneur, là ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on a tous besoin de signes. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, Seigneur, tu fais... Vraiment, Seigneur, je t'en prie.
Vous recevez l'hostie ?
Oui, et il est dans ma bouche. Et il ne descend pas. Le Seigneur ne descend pas. Il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur ? Donc, je t'en prie, je ne vais pas te recracher comme un vulgaire aliment. Et moi, j'ai toutes mes sœurs qui sont en train de prier autour de mon lit. Et lui, le séminariste, Abbé Jean-Claude, il ne prie pas. Il regarde, il observe. Il attend de voir.
Seigneur,
voilà. Lui, il a déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'ai déjà dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Voilà, dis seulement une parole et je serai guérie. Bon, on attend si... Tu es celui qui guérit ou pas ? Et tout le monde prie. Et moi, je prie aussi et je sens que je salive. Ce n'était pas évident. Je sens que je vais le rejeter, je vais le recracher parce que je n'arrive pas à l'avaler. Et donc, j'ai ma bouche qui est pleine. On voit bien que je salive, vraiment. Et je dis, je ne te recracherai pas. Tu vas te débrouiller, mais tu vas descendre. Voilà. Et puis, comme par hasard, il y a un petit filet au bout de quelques minutes. Un petit filet et je sens qu'il descend progressivement. En tout cas, toute ma salive est redescendue. Et j'ai dit, il est descendu, apportez-moi du jus. S'il est descendu, tout descend après lui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'alimenter, enfin alimenter, non, à commencer à boire, voilà, du jus, des potages, et que j'ai pu survivre, quoi, voilà.
Et alors après, l'histoire va continuer, vous allez venir en France, rencontrer des médecins qui ne trouvent pas de solution.
Ouais. Me donne c'est long. Mois à vivre, voilà.
Voilà, trois mois à vivre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sténose de...
C'est une sténose à l'œsophage.
Voilà,
ouais.
Voilà donc bon, ben, on est désolé, mais on n'y arrive pas. Mais en même temps, il faut qu'on y arrive, mais on n'y arrive pas, mais on va y arriver. Voilà. Okay. Et donc, cette histoire va se terminer par... ça ressemble à un miracle un peu, non?
Tout à fait. Et là, je crois que je vais inviter encore une fois les téléspectateurs à se procurer le livre. Là. Je ne vous raconterai pas tout. Voilà. Et oui. Effectivement, il y aura un véritable miracle et un constat après.
Qui nous permet de vous avoir ici
oui,
présente.
Tout à fait. Donc, de 99 à ce jour. Et je me souviens qu'en 2009, quand je suis allée revoir le médecin qui m'a opérée, il m'a dit « j'ai cru que vous étiez morte ». Théoriquement,